La pièce La vengeance et l'oubli, une pièce librement inspirée de la tragédie de Shakespeare, Hamlet, est présentée au 4 sous depuis hier et ce jusqu'au 11 mai. Ça me fait bien plaisir d'en parler avec l'auteur de la pièce, metteur en scène également de la pièce, Olivier Quémède. Bonjour Olivier.
Bonjour.
La vengeance et l'oubli, de gros mots qui ont du poids, mais d'abord et avant tout, que représente Hamlet de Shakespeare pour vous?
Ben, c'est évidemment une pièce fondatrice et du théâtre occidental, une pièce tellement, tellement majeure que je pense que c'est un des textes qui a été le plus commenté avec la Bible.
Ah oui.
Donc, c'est vraiment... C'est que, s'il y avait un écrivain qui avait dit que l'histoire du monde était un ensemble de notes de bas de page de l'œuvre de Shakespeare. C'est vrai que c'est une telle portée universelle, donc ça fait partie même parfois de nos inconscients. Les gens savent pas nécessairement que le roi lion, par exemple, c'est une transposition d'Hamlet, qu'on retrouve cette figure-là dans je ne sais combien d'œuvres théâtrales, sans des fois même que ça soit souligné.
Alors, vous n'êtes pas le premier.
Oui, je suis vraiment pas le premier. Donc c'est bien parce que ça ôte une espèce de pression qu'on pourrait se mettre en disant qui suis-je moi, mais je suis un parmi d'autres qui marche dans cette forêt shakespearienne. Je m'étais déjà promené sur ces terres-là avec Five Kings en 2015.
Ouais. J'avais vu à l'Espace Go.
Exactement, ouais. À l'Espace Go, tout à fait. J'avais réécrit un peu le cycle historique. Donc Richard II, Henri IV, Henri V, Henri VI, Richard III, la grande tétralogie shakespearienne.
Est-ce que vous vous souvenez
le mot réécriture, oui. Mais c'est pas une adaptation. Je m'inspire puis après je fais ma propre histoire, mes propres mots, je crée mes personnages. Donc l'image qui me vient, c'est vraiment de me promener dans une forêt. J'aime cette image parce que on s'y perd par moments dans la forêt shakespearienne. Parfois on est content de s'y perdre, on retrouve le sentier, on doit abattre parfois des arbres pour qu'il y ait un peu une clairière. C'est vraiment ça mon processus d'écriture avec Shakespeare.
Est-ce que c'est une pièce que vous avez vue jeune dans votre vie ou lue jeune?
J'ai vu quelques représentations d'Hamlet, mais pas quand j'étais jeune. Et je l'ai lu assez tardivement. Dans ma jeune vingtaine, quand j'étais étudiant à l'École nationale, mais le déclic, c'est Wajdi Mouawad, metteur en scène, mm-hmm. auteur, directeur artistique, qui dirigeait le théâtre de 4 sous au début des années 2000. Il était mon coach d'écriture, c'est une drôle de métaphore, mais sportive, mais mon parrain d'écriture alors que j'étais finissant en écriture à l'École nationale de théâtre. Il m'avait donné un livre qui s'appelle « Enquête sur Hamlet ». De Pierre Bayard, où l'auteur français Pierre Bayard cherche à élucider le fameux meurtre, hein, parce que dans Hamlet de Shakespeare, donc le roi, le père d'Hamlet meurt. Hamlet, on croit que ce sont des causes naturelles, et puis la mère d'Hamlet convole en juste noces la veuve, hein, tout de suite avec l'oncle d'Hamlet.
Oui, Claudius.
Oui, Claudius. Et plus la pièce avance, plus finalement le spectre du père réclame vengeance, car en fait, il a été assassiné. Il dit qu'il a été assassiné par Claudius. Bon, puis c'est Claudius le meurtrier, puis l'enquête aboutit assez vite à cette conclusion. Pierre Bayard, dans Enquête sur Hamlet, il dit « Attention, n'allons pas si vite. Qui nous dit que le spectre dit la vérité?
Mm-hmm.
Qui nous dit que ce spectre existe pour de vrai? Shakespeare ne croyait pas tant que ça aux fantômes. Qui nous dit que c'est pas... Une enquête fabuleuse, qui aurait pu tuer le roi.
Oh,
moi, ça m'a intéressé depuis ces années où Wajdi m'avait passé ce bouquin. Et 20 ans plus tard, me voici, moi, quittant le théâtre de 4 sous, théâtre que j'ai dirigé pendant plusieurs années. C'est la dernière pièce que j'ai programmée, en fait. C'est la dernière pièce de ma saison. Et je me suis finalement attaqué à ce mythe-là, en y projetant mes propres angoisses, désirs, ambitions, rêves et rapports entre le père et le fils.
C'est tout à fait symbolique.
C'est très symbolique, c'est très personnel aussi, parce que du moment qu'on parle d'un père mort, que notre père soit vivant ou mort, le mien est décédé, mais évidemment, on rentre dans quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. Puis Moi, j'ai toujours trouvé ça très concret, un dialogue avec un spectre, parce que c'est une façon théâtrale de dire qu'on est, on est en lien avec les morts par le souvenir, par les photos, par les récits. Moi, j'ai toujours cultivé ça, sans être ésotérique, mais j'ai des dialogues dans ma tête en repensant des moments avec, avec des gens qui ne sont plus là, qui ne sont plus vivants.
Mm-hmm. Et vous avez donc eu envie de créer votre pièce, une pièce, à partir d'une autre pièce. Est-ce qu'on retrouve les personnages d'Hamlet, de Shakespeare, dans votre pièce? Est-ce qu'il y a un Hamlet qui s'appelle Hamlet?
Non, il s'appelle le fils. On retrouve les personnages principaux. Donc, Hamlet n'est plus Hamlet, mais il s'appelle le fils.
Qui est incarné par Gabriel Lemire?
Gabriel Lemire. Claudius s'appelle l'oncle, il est joué par Richard Thériault. Gertrude, chez Shakespeare, je l'appelle la mère, et elle est jouée par Mireille Nagar. Ophélie s'appelle Ophélie, c'est le seul prénom que j'ai conservé, joué par Anna Romani. Et puis Horatio, le grand ami d'Hamlet, s'appelle l'ami, il est joué par Sacha Samar.
Ah bon, donc, pourquoi vous avez décidé de ne pas les nommer finalement, sauf Ophélie?
Parce que pour moi, d'abord, Ophélie, c'est un nom complètement contemporain. Ouais. Encore beaucoup de jeunes filles, de femmes qui s'appellent Ophélie, sans même nécessairement que c'est un lien, j'ose espérer, parce que sa fin est assez tragique chez Shakespeare, sans qu'il y ait un lien nécessairement avec la pièce. Et puis, alors que les autres, c'est tellement connoté, Claudius, etc. C'est tellement... Je voulais sortir un peu de la de l'enveloppe shakespearienne, leur donner une contemporanéité, les rapprocher de moi. Et Ophélie, je voulais lui redonner une place importante parce qu'elle est un peu effacée chez Shakespeare. Elle est vraiment victime. Et moi, je voulais pas en faire une victime. Je voulais en faire une femme qui assume, qui est autonome, qui dit des choses au fils. Et c'est important, ouais, de lui redonner une forme d'identité forte.
Et sur la scène, là, comment ça se déploie? On suit une histoire là, avec un fil conducteur?
Oui, il y a vraiment une histoire. C'est vraiment une histoire. Il y a un père qui meurt dans des circonstances supposées naturelles, mais le fils se met à douter des circonstances de la mort, se met à accuser son entourage, dont son oncle. Il a sa mère qui sort avec son oncle. Elle lui apprend ça peu de temps après le décès du père en disant « Ben voilà, j'ai un nouveau chum qui se trouve être ton oncle, le frère de ton père. » Le fils le prend très, très mal. Il a une liaison naissante avec Ophélie. Il apprend aussi des choses dans le passé d'Ophélie. Donc, on suit vraiment une histoire inspirée donc de la pièce shakespearienne, mm-hmm. mais qui se passe aujourd'hui. Pour
c'est
moi,
ça. C'est très actuel.
C'est contemporain. Oui. En tout cas, c'est vraiment contemporain. Je dis pas où et quand ça se passe, mais on sent bien qu'on est dans le monde d'aujourd'hui.
Et je lisais que vous étiez, je sais pas, concentré sur le deuil à travers cette pièce.
Oui, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le thème du deuil qui est très présent, les rapports père-fils du vivant et du temps que le père était vivant, mais aussi de sa mort. Mais ce que je m'en suis rendu compte presque vers la fin de l'écriture, c'est que c'est finalement peut-être une pièce davantage sur la relation mère-fils. Parce qu'il réagit mal... Le fils a dit que sa mère soit à nouveau amoureuse, soit avec un autre homme, et ça met en jeu toute une relation qui, moi, me bouleverse, en fait, face à l'absent, face au père qui n'est plus là. Mm-hmm. Y a un nouvel équilibre qui se crée dans la famille, donc il y a une nouvelle relation à inventer. Et ça, c'est assez présent dans ma pièce, oui.
Oui, et c'est assez présent dans votre vie. Hein. Je vous écoutais en entrevue hier... Et vous parliez de votre propre expérience de vie, là. Vous avez perdu votre père, ça fait quand même pas si longtemps?
Non, ça fait pas si longtemps. C'est en juillet dernier. J'étais en début d'écriture de ce projet. Alors, c'est incroyable. J'ai initié ce projet-là de la vengeance et l'oubli. Je l'ai programmé alors que mon père était encore vivant. Et il est mort pendant... vraiment au début de l'écriture. Alors, ça a complètement bouleversé mon rapport à la pièce. Quelque chose qui était, je dirais pas théorique, mais bon, un peu plus abstrait, est devenu très, très concret, évidemment plus émotif, plus personnel. Donc, sans doute que l'écriture de La vengeance et l'oubli a aussi fait partie de mon processus de deuil.
Mes condoléances, Olivier Kemed.
Merci.
Et le fameux monologue « Être ou ne pas être », est-ce qu'on le retrouve dans « La vengeance et l'oubli » ?
On le retrouve de façon détournée. Et c'est pas le fils, c'est pas Hamlet qui le dit.
Ah!
Oui, j'ai donné ça à Ophélie.
Ah oui.
Et elle le dit différemment. Oui, parce que la question centrale pour moi de ma pièce, c'est être ou ne pas être un fils. En fait, c'est qu'est-ce que ça veut dire être fils de?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on reçoit comme héritage? Qu'est-ce qu'on décide de recevoir? C'est André Malraux qui disait un héritage, ça se conquiert. On fait pas juste recevoir. Hein, on parle beaucoup de l'identité québécoise ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on a reçu, nous? Qu'est-ce qu'on décide de conserver? On n'a pas juste reçu la langue française. Il faut faire des actions opposées si on veut la conserver. On peut décider de pas la conserver. On peut décider de... Toute cette notion d'héritage, qu'elle soit culturelle ou familiale, évidemment, il y a un héritage génétique, mais après, il y a bien ce qu'on décide de conserver ou qu'on décide au contraire de complètement tasser, d'oublier volontairement ou involontairement. C'est ça la question centrale, finalement, c'est le legs et la transmission. Et être fils d'eux, ben, c'est pas juste fils d'un père, c'est aussi fils d'une mère, c'est aussi s'inscrire dans une lignée. C'est autour de ces thèmes-là que j'ai tricoté la vengeance et l'oubli.
Et puis hier, c'était la première, pas la première médiatique, mais c'était la première représentation de la vengeance et l'oubli. Comment le public a-t-il réagi?
On était très contents, très fébriles, hein, toujours, là,
ah oui.
Cette première rencontre avec le public. Évidemment, c'est là que tout prend son sens. Et puis, c'est là qu'on comprend aussi certaines choses. Qu'est-ce qui est reçu? Qu'est-ce qui transparaît? Il y avait une magnifique écoute, beaucoup d'émotions à la fin, je dois dire, dans la salle. Donc, on était très contents de voir que on avait touché à des thèmes, j'oserais dire, universels, ou en tout cas qui rejoignaient beaucoup de gens, quel que soit leur itinéraire, quel que soit leur rapport avec leurs parents, avec leurs enfants, parce que la question d'être fils d'eux, c'est aussi quand on a des enfants, mm-hmm. quand on a... du monde à se soucier au-dessus et en dessous de nous. Donc, j'étais réjoui de voir que ces questions-là résonnaient.
Alors, on espère que la salle du Catsou soit pleine jusqu'au 11 mai, puisque la pièce sera présentée jusqu'à cette date-là. La vengeance et l'oubli, une pièce librement inspirée de la pièce, la tragédie de William Shakespeare, Hamlet. Et j'en parlais avec son auteur et metteur en scène, Olivier Kemen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Bonne journée.